La revue de presse internationale.
Avec ce matin une tempête diplomatique entre Londres et Moscou, Thomas Cluzel.
Oui, même si le ton était lent et sa voix à la fois grave et posée, c'est peu de dire que le juge britannique Robert Owen a envoyé hier un véritable missile diplomatique depuis la haute cour de justice à Londres. Il a notamment affirmé que l'opération des services secrets russes pour tuer Alexander Litvinenko avait probablement été approuvée par le président Poutine lui-même. Il aura donc suffi d'une seule petite phrase concluant des années de rebondissements diplomatiques et procéduraux, note le temps de Lausanne, pour que Londres finisse par impliquer officiellement Moscou au plus haut niveau dans la mort de cet ancien dissident russe. En même temps, personne ne pourra nier que le cas Litvinenko a été depuis longtemps déjà un sujet d'extrême crispation entre les deux pays, bien avant même son assassinat. Tout commence en réalité il y a 15 ans, lorsqu'en 2000, l'ex-espion du KGB, alors âgé de 44 ans, décide de faire défection au Royaume-Uni avec sa femme et son fils. Opposant patenté de Vladimir Poutine, il obtient l'asile politique. Or à l'époque, rappelle The Guardian, il est le premier à décrire la Russie de Poutine comme un état mafia dans lequel les rôles du gouvernement, des organisations criminelles et des services secrets sont devenus impossibles à démêler. En 2006, en faisant état d'un harcèlement incessant des services secrets russes à son endroit, il obtiendra même la naturalisation britannique. Seulement voilà, un mois plus tard à peine, le 1er novembre 2006, une dose de polonium est versée à son insu dans une tasse de thé. Le produit radioactif mettra 3 semaines à agir et le 23 novembre, Alexander Litvinenko meurt, non sans avoir auparavant publiquement accusé Vladimir Poutine d'être le commanditaire de l'opération. Rapidement, l'enquête de police identifie les deux responsables présumés du meurtre, Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtun. Un mandat d'arrêt international est émis, sans grand espoir toutefois d'obtenir leur extradition. Andrei Lugovoy en particulier est devenu entre-temps député d'un parti nationaliste et mène une carrière à la télévision russe. L'an dernier, il a même reçu des autorités une médaille pour service à la patrie. Reste qu'une enquête publique a tout de même été ouverte donc en 2012. Enquête d'ailleurs que le gouvernement britannique a tout fait au départ pour bloquer, craignant que des documents classés ultra sensibles ne deviennent publics, sans compter qu'à l'époque, un rapprochement avec Poutine était également en cours. Reste que grâce à l'opiniâtreté du juge Robert Owen et de la veuve d'Alexander Litvinenko, l'enquête a tout de même eu lieu et le rapport a donc été publié hier. Or, même s'il ne dévoile pas les documents confidentiels des services britanniques, ses conclusions sont sans appel. Le juge se dit certain que les meurtriers sont Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtun, et sur le commanditaire, cette fois-ci, il n'a guère de doute non plus. Il est fortement probable que les services secrets russes, le FSB, héritier du KGB, sont derrière cette opération. Quant à l'implication de Vladimir Poutine, qu'il estime probable, le juge britannique donne les éléments suivants. Plusieurs témoignages rappellent que le FSB est extrêmement hiérarchique et qu'une opération aussi importante que celle-là, un assassinat en plein centre de Londres, nécessite de monter très haut pour obtenir l'autorisation. De plus, le polonium est une substance radioactive produite par l'agence atomique russe, Rosatom. Il est donc extrêmement difficile à obtenir. En clair, cela nécessite une autorité interagence. Et la seule autorité qui puisse permettre ce transfert est l'administration présidentielle elle-même.
Alors évidemment, les réactions de Moscou ne sont pas fait attendre.
Oui, sans surprise, à l'annonce des conclusions de l'enquête menée à Londres, Moscou a aussitôt nié son implication et mis en cause l'impartialité de la justice britannique. La décision du tribunal est considérée comme politiquement orienté. Sur son site officiel, le ministère des Affaires étrangères russe indique que la procédure manque de transparence aussi bien vis-à-vis de la partie russe que vis-à-vis de l'opinion publique. Quant au porte-parole du Kremlin, il a carrément ironisé hier sur ce rapport, estimant qu'il s'apparentait à une blague. Visiblement, a-t-il réagi, on peut relier cela à l'élégant humour britannique. Sur le journal en ligne Gazeta, repéré par le Courrier international, une source anonyme précise d'ailleurs que Moscou ne livrera pas aux autorités britanniques les deux principaux suspects visés par l'enquête et qu'ils ne seront pas davantage poursuivis au pénal en Russie. L'un des deux suspects, Andrei Lugovoy, a lui-même qualifié les conclusions de l'enquête d'absurdes. Les résultats de l'investigation confirment une fois de plus la position anti-russe et l'étroitesse d'esprit de Londres, a-t-il déclaré, avant d'aller jusqu'à accuser la justice britannique de s'être servie de cette affaire à des fins politiques, notamment dans le contexte de la crise russo-ukrainienne.
Et alors Thomas, est-ce que la publication de ce rapport a des chances d'avoir des suites judiciaires ?
Eh bien, un procès demeure hautement improbable, en particulier, je vous le disais, parce que jamais A priori, la police britannique n'obtiendra de la Russie l'extradition des deux suspects. En revanche, des répercussions diplomatiques sont éventuellement possibles, mais là encore, cela reste à démontrer. La veuve d'Alexander Litvinenko a appelé à des sanctions financières contre Poutine et les autres personnes citées dans l'assassinat de son mari. Elle souhaite également que le gouvernement de David Cameron expulse une partie du personnel diplomatique russe basé au Royaume-Uni. Alors pour l'heure, le gouvernement britannique s'est contenté de convoquer l'ambassadeur russe et de geler les avoirs des deux exécutants présumés. Rien ne dit en revanche que le Premier ministre britannique ira plus loin. D'abord parce que d'importantes sanctions sont déjà en place contre le régime russe suite à ses incursions en Ukraine et à son annexion de la Crimée. Ensuite, et comme il l'a lui-même reconnu sur la BBC, parce que nous avons besoin d'une solution à la crise en Syrie et qu'à ce titre, le Royaume-Uni se doit d'entretenir des relations diplomatiques avec la Russie. En d'autres termes, il n'est pas certain que Cameron soit prêt à mettre en danger ce fragile équilibre pour une affaire vieille de 9 ans ou quand la tempête diplomatique se change aussi vite en tempête dans un verre d'eau même empoisonné.
Merci Thomas Cluzel, une chronique à retrouver sur le site de France Culture ou bien à podcaster.